Midi 13h, à votre santé.
À votre santé.
Philippe Robichon sur Beurre FM.
AVS, à votre santé tous les jours jusqu'à 13h sur Beurre FM. Bonjour, bienvenue. Et aujourd'hui, on s'occupe de votre assiette avec le chef Voilà qui est là. Ça va, chef Voilà?
Ça va et toi, Philippe?
Bien, plus que jamais en 2016, on va essayer de vous faire bien manger.
C'est la bagarre, là. C'est la course. De toute façon, 2016, si on est là en 2017, en 2018, jusqu'à que les gens comprennent.
Bien, ça, manger sain. Et avec nous au téléphone, Stéphane Guilbault. Bonjour Stéphane Guilbault et bienvenue sur Beurre FM.
Bonjour Philippe.
Voilà.
Bonjour.
Et vous avez un petit accent du sud. Vous êtes dans quelle région de France?
Pas loin de Marseille, je crois que c'est Aix-en-Provence.
Ah ouais, si, effectivement, vous croyez bien. Vous êtes un fervent défenseur, Stéphane Guilbault, de ce que vous appelez la désobéissance alimentaire et vous publiez « Je ne mange pas de produits industriels » aux éditions Erol. Et vous êtes spécialiste de ce qu'on appelle les changements de comportement alimentaire. En quoi ça consiste comme métier, ça, spécialiste de changement alimentaire?
En fait, la désobéissance alimentaire et le changement de comportement alimentaire, ben, c'est déjà s'intéresser à l'humain. Puisque en fait on leur réapprend à se passer de l'industrie agroalimentaire et de retrouver les basiques d'une alimentation comme nos grands-parents avaient si bien compris à l'utilisation quotidienne.
Bon, mais pourtant vous aussi, Stéphane Guilbault, vous avez mangé dans votre vie du Nutella, des Pépitos, du Galac, des berlingots Nestlé, des animaux, des poissons panés. Qu'est-ce qui fait que finalement vous, qui avez eu une première vie normale, vous avez même travaillé dans le marketing, vous en soyez venu aujourd'hui à ce concept de désobéissance alimentaire?
En fait, ça a commencé par le marketing en lui-même, puisque pour rappeler aux plus jeunes, au début des années 80, le marketing en fait et la publicité prenaient une part importante dans les médias. Et en fait, il était presque évident et génial de s'intéresser à la publicité. Il est vrai qu'on a commencé à manger non plus des aliments, mais des produits de marque. Comme vous le citiez, on mangeait plus du chocolat, mais telle marque, on mangeait plus tel biscuit, mais telle marque, etc. Ça a continué d'ailleurs.
Mais ça a commencé quand, ça, à peu près, pour ceux qui ont toujours connu ça?
Comment c'est quoi, le marketing alimentaire?
Oui, à peu près.
Dans les années 80.
C'est les années 80, oui, après-guerre, il y avait la réclame, et à la fin des années 70, début 80, on est rentré dans la logique de publicité, c'est-à-dire, en fait, c'est une ingérence permanente sur la façon de manger.
Quand on a fait croire que les pubs où on avait Ronald McDonald qui était le copain des enfants, ça a commencé comme ça. Ça a commencé avec ce genre de publicité-là.
Ouais, tout à fait. Puis en plus, on a intégré un nouvel ingrédient qui est le plaisir. Les marques se sont efforcées d'intégrer la notion même de plaisir, qui le plaisir, contrairement au bonheur, n'est pas durable. Le problème en fait de cette notion de plaisir, c'est qu'on est à la recherche permanente de dopamine et plutôt de produits sucrés, et on s'associe facilement à un produit pour une sorte de quête de bonheur.
Ouais. Alors parlez-nous de ce que vous appelez le neuromarketing et de son rôle.
Alors le neuromarketing, bon, ce n'est pas une science, ce sont des outils en fait qui permettent de comprendre le comportement du consommateur. Il faut savoir quand même qu'en France, il est interdit d'analyser directement le consommateur par ses techniques et ses procédés. Par contre, il n'est pas interdit d'observer le comportement humain pour regarder en fait ses réactions par rapport à des événements. Il est très facile de les transposer pour essayer de mieux cibler et mieux appréhender l'impulsion d'achat chez le consommateur. Alors, quatre exemples tout bêtes d'un retour sur le neuromarketing. On s'est rendu compte que le consommateur, pour lui, tout ce qui était beau était forcément bon.
C'est clair.
Pour lui, voilà, tout ce qui est... donc, on a travaillé le packaging, les emballages, le rayonnage et l'image de marque, en fait, pour que ce soit très, très vite associé à quelque chose de beau.
Ou aussi, ils ont une grande spécialité en ce moment, c'est d'utiliser les produits estampillés du genre les produits du terroir avec des habillages du terroir façon artisanale, alors que c'est complètement faux et que c'est pas du tout artisanal. Ça aussi, c'est leur grande spécialité en ce moment.
Oui, alors ça, c'est fait partie d'une grande famille qui est tout ce qui est soit visible, soit grand, soit rare, soit permanent. Ça prend une notion d'importance. La notion de terroir fait partie en fait de ces racines-là, de cette logique marketing.
Ah oui.
En fait, ça rassure. La troisième, en fait, souvent, c'est ce qui est trop différent paraît dangereux. Donc, on évite en fait d'aller chercher quelque chose de trop différent et on y va petit à petit sur les tests consommateurs pour être sûr que le produit soit dans la continuité. Et le quatrième, le plus évident, je trouve, dans nos sociétés de consommation aujourd'hui, c'est tout ce qui est répété finit par sembler vrai. On appelle ça en marketing le truisme.
Oui, nous on appelle ça le bourrage de crâne.
Ah ben oui, tout à fait.
Si vous voulez.
Voilà, à force de le répéter tous les jours, les gens finissent par le croire, puisque c'est vu à la télé, c'est entendu, répété.
Et c'est ce que je disais, Stéphane, exactement, c'est ce que je dis tout le temps, c'est que le problème, quand on a, pourquoi, par exemple, des marques, il faut se poser la question, comme Coca-Cola, comme McDo, continuent, alors que ce sont des marques, maintenant, des lobbies, carrément, c'est plus des marques, ça devient des lobbies très dangereux d'ailleurs, continuent à faire de la publicité, alors qu'ils vendent des milliards de boissons, c'est parce que justement ça doit rester ancré dans la tête des gens. La preuve étant, Coca-Cola, qu'est-ce qu'il a réussi à faire il y a quelques années en arrière, enfin une quarantaine d'années, il a transformé le Père Noël vert en rouge et c'est devenu normal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est
tout à fait.
Alors, des choses comme ça. Quoi.
Alors exemple de truisme, Stéphane Guilbeault, c'est les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Ouais. C'est le lait, c'est bon pour la santé. Enfin toutes ces choses là.
Oui, tout à fait.
Ça c'est un exemple de truisme.
Mais ce qui fait peur, c'est que c'est dit par gouv.fr quand même. Santé.gouv.fr, on te dit que les produits laitiers sont tes amis. Alors qu'aujourd'hui, on reconnaît les maladies. Les docteurs, de toute façon, ne peuvent plus faire autrement. Ils reconnaissent les maladies dues au lactose et dues à l'hormone de croissance qu'il y a dans ce lait, qui est super sucré en plus, qui n'est même pas du lait de vache normal.
Ouais. C'est pas, je vais jouer sur les mots, c'est pas dit, c'est répété en fait. C'est retranscrit par des sites, on va dire, gouvernementaux. Hmm. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que la plupart des études coûtent extrêmement cher et il est facile de glisser vers des récupérations en fait d'informations qui sont soi-disant faites par des sociétés ou des cabinets indépendants. C'est extrêmement difficile de trouver toute la transparence en fait de la motivation, du leitmotiv d'une étude. Donc quand c'est répété sans cesse, même nos propres dirigeants l'ont reconnu d'ailleurs plusieurs fois, il y a plusieurs titres, qu'ils se sont fait avoir sur certains. On a vu des scandales pharmaceutiques sur ce sujet-là. C'est, à force de l'entendre, on finit par croire ce qu'on lit et ce qu'on voit dans des courbes, des schémas. C'est ça qui est compliqué, en fait. C'est que c'est fait partie intégrante de nos systèmes de communication.
Mmh. Mais si on prend l'exemple du lait, comment est-ce qu'on a réussi à faire croire aux gens que le lait c'était bon pour la santé? Est-ce qu'à un moment donné, on l'a médicalement vraiment pensé? Ou alors on a toujours su que c'était pas bon pour la santé et on a répété le message sciemment en disant que c'était bon pour la santé alors que ça ne l'était pas?
Les médecins, ils te disent de boire du lait, hein. Tous les médecins, quand tu vas chez le docteur, ils te disent de boire du lait. Pour le calcium, pour machin.
Heureusement, pas tous. Ça a énormément changé ces 10 dernières années, et plus particulièrement ces
5
dernières années. Ouais, ça, le message a changé. Il faut faire très attention, en fait, sur le lait. C'est un sujet
épineux,
tabou,
oui.
Épineux, même tabou pour des consommateurs, puisqu'il y a une notion de confort par rapport au lait. Ils ne comprennent pas qu'on puisse, aujourd'hui, leur interdire le lait. Alors, attention, on n'interdit pas le lait. Le lait a toujours été un aliment plaisir. Le problème, c'est que la futilité de cet aliment s'est transformée. Au lieu de passer de 20 à 30% de futilité, parce que l'être humain, de toute façon, est un consommateur social, c'est un mangeur social, il a besoin de se faire plaisir, on est passé de la futilité à l'utilité. Et c'est ça qui me gêne dans les messages. Cette ingérence permanente qui dicte aux gens le fait d'en consommer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois par jour. C'est ça le réel problème, en fait. Mais si vous voulez, je vais remonter la source, en fait, du lait. On a en gros trois générations de consommateurs. Mmh. On a ceux que l'on connaît le plus, qu'on en fait partie, c'est les 10 générations de personnes nées sous le principe de l'industrialisation. Oui. On ne va pas se le cacher, on est tous plus ou moins malades.
Oui, on est des enfants de ça, oui. Ouais.
De ça. Avant ça, il y avait les 600 générations d'agriculteurs. Ils se sont installés, ils se sont sédentarisés. Et ils ont fini par en fait consommer ce qu'ils avaient sur place, c'est-à-dire ce n'était plus du gibier mais de la viande, ce n'était plus en fait, et c'était du lait qu'il était à disposition, et le blé qu'ils ont fini par domestiquer, faire muter pour qu'il soit dans un rendement de plus en plus important. Mmh. C'était des gens qui commençaient à avoir des maladies et auto-immunes et liées en fait plus ou moins, on disait à l'époque de la vieillesse, des 60, 70 ans. Et avant ça, on a quand même, là, je vous rappelle que c'était 600 générations. Avant ça, on a 100 000 générations qui sont les cueilleurs-chasseurs. Eux ne connaissaient ni le lait, ni le blé et ni le sucre. Ce sont quand même notre patrimoine génétique. C'est 99,5% de l'humanité. Et on n'a rien à leur envier, on n'a rien à leur apprendre.
Ouais, c'est clair, c'est ça qui est le plus grave.
Et je nous trouve très insolents, en fait, dans ces 10 dernières générations. Très insolents. Parce qu'on déstructure l'alimentation, on donne des conseils à tout va, à nos enfants, consommer ci, nous consommer ça. Mais en fait, on n'a pas trop de leçons à leur donner. On ferait mieux de regarder ce qui se passait, les 5000 générations précédentes.
Exemple concret, Stéphane. Exemple concret, simple, en une fraction de seconde. On parle souvent, moi, je parle souvent de lactofermentation. Quand on sait qu'il y a quand même, c'est un procédé qui existe depuis plus de 10 000 ans en arrière. Hein, je dis 10 000 ans, ça peut être pire. Qu'à l'époque, il n'y avait pas de frigo et qu'ils mangeaient des légumes qui étaient beaucoup, beaucoup plus nutritifs aujourd'hui, ils arrivaient à le lactofermenter, à le conserver. Alors qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que la lactofermentation enlève le nitrate de légumes, réduit les pesticides, donne un meilleur goût. Et c'est un procédé qui a 10 000 ans. Maintenant, on a mis le frigo à la place, par exemple. Et voilà comment aujourd'hui, effectivement, on est insolent par rapport à ce que vous dites. On est devenu insolent par rapport à ça. Mais c'est aussi le système qui nous envahit, la télévision, les médias. On grandit avec ça. On grandit en disant, bah, effectivement, tu manges un Kinder Bueno ou tu manges un Kinder, ça va te donner tant de lait, tant de calcium, alors que c'est faux. Et comme depuis qu'on est tout petit, on est matrixé, c'est ce que je dis, comme une matrix matrixée à cette sauce, il est difficile en grandissant, arriver surtout à 25 ou 30 ans, de se dire, bah, ouais, mais là, j'ai fait n'importe quoi. Puisque c'est une habitude, c'est une éducation en fait qu'on a eue.
Bien sûr. Mais de toute façon, quand vous êtes dans un système éducatif où on a appris que le blé, le lait, le sucre faisaient partie intégrante de votre vie, comment l'enlever 30 ans plus tard ?
Ouais, c'est dur.
C'est un travail énorme.
Alors Stéphane Guelboux, vous restez avec nous puisqu'on parle de votre livre ce matin pour démarrer l'année santé et l'année nutrition. Un livre très très bien fait d'ailleurs. Hein, Je ne mange pas de produits industriels aux éditions Erol. On en parle avec vous ce matin. Et si vous avez des questions, vous pourrez en poser d'ailleurs tout à l'heure au 01 53 48 3000.
Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM. Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM.
On parle de vos assiettes ce matin à travers le livre « Je ne mange pas de produits industriels ». Stéphane Guilbeault est avec nous au téléphone. Je rappelle que vous êtes un défenseur de ce que vous appelez la désobéissance alimentaire. Est-ce que vous pouvez nous donner la définition de ce qu'on appelle un produit industriel ? Ça commence comment et où ?
Alors la définition est assez complexe puisque en fait l'industrialisation commence à plusieurs niveaux selon qui on est. Alors je vais vous donner la mienne. La désobéissance alimentaire part du principe qu'un produit est industriel quand par le process on a changé la nature de l'aliment.
Exemple.
C'est-à-dire que la mécanisation d'un produit, si on prend, on va prendre le beurre par exemple. On va prendre un biscuit, ça va être plus parlant. Si vous prenez des ingrédients comme de la farine, du beurre, du sucre, et que vous produisez de façon artisanale, comme vous le feriez à la maison, un biscuit.
C'est top.
On part du principe que c'est artisanal. Après, on peut discuter encore de la liste des ingrédients. Est-ce que c'est de la farine raffinée ?
C'est important. C'est important ce qu'il dit, puisque on a souvent le problème de gluten actuellement, et il y a beaucoup à savoir, c'est que c'est pas forcément le gluten, c'est aussi le traitement de la farine, ce qu'il y a dans la farine.
La nature de la farine, tout à fait. Donc là, on peut dire que même à la maison, on pourrait avoir accès à ce genre de produit, on peut y revenir. L'industrialisation, c'est quand on commence en changeant le process de fabrication, par exemple en disant je vais prendre une machine qui va beaucoup plus vite, je vais me passer de la cuisson, je vais remplacer un ingrédient par un autre. Là, on est dans le produit industriel. Quand vous prenez en fait...
Attendez, Stéphane Guilbeault, si la machine, elle se sert exactement des mêmes ingrédients qu'à la maison, a priori, c'est pas grave.
Alors oui et non. Je vais prendre l'exemple du pain. Quand on a commencé à rentrer le pétrin dans les boulangeries, un pétrin, je dirais bête et méchant, c'est deux bras oscillants qui font toujours le même mouvement. Donc, qu'est-ce qu'il faut rajouter dans la farine pour que la pâte ne casse pas, contrairement à l'intelligence du bras du boulanger? Il faut rajouter plus de gluten pour que la mécanisation puisse fonctionner. Donc, on a changé la nature, en fait, des ingrédients pour pouvoir industrialiser le produit.
C'est ce que je disais justement, Jean-Pierre. Je disais que nos ancêtres, ils ont mangé
Stéphane.
Nos ancêtres, ils ont mangé du pain pendant des années. Ils ont eu des farines. On n'a jamais eu de problème. Et effectivement, on parlait de ça. À force d'avoir ajouté beaucoup plus de gluten pour faciliter la fabrication du pain, on se retrouve avec des gens qui sont de plus en plus intolérants, ce qui est normal.
Ah, le gluten, en fait, il y a eu un phénomène de mode, puisque les gens ont voulu se jeter dessus.
Oui, oui, ça c'est vrai. Ouais.
Un mode alimentaire, mais il faut se dire que les gens ne sont pas fous. Le problème du gluten, c'est qu'il est de plus en plus présent dans notre alimentation, parce qu'il sert d'agent de texture dans les produits industriels. Donc déjà, il y a des endroits où il ne devrait pas être. Deuxièmement, la farine, à force de muter, d'être chargée pour être au top de sa performance, a été aussi enrichie en gluten. Ça, c'est le deuxième problème. La mécanisation de la boulangerie a demandé de rajouter du gluten. Donc tout ça accumulé, puis ensuite, bien entendu, les recettes. Et quand vous faites un pain de mie, je crois que c'est l'aliment qui...
La pire chose qu'on peut manger. C'est la pire, le pire.
Voilà. Le premier pain que l'on ait connu sur le bassin méditerranéen, qui est le pain Essen, est un pain en fait qui était fait avec du blé concassé, mélangé à de l'eau et séché au soleil. La panification est arrivée bien, bien tardivement après. Donc oui, en effet, puis attention, on ne mange pas le même blé. Il y a eu le petit épeautre qu'on appelait l'engrain, ou l'amidonier. On est passé aujourd'hui à un froment qui est un blé dit moderne, dit toxique en fait, parce qu'il a été transformé et rendu performant trop de fois par rapport à ce que l'on peut accepter. Donc oui, si aujourd'hui on a des problèmes avec le gluten, c'est pas parce qu'on mange du pain, c'est parce qu'on mange des aliments qui ont été trop transformés et trop riches en gluten.
Voilà. Alors vous prenez un exemple, celui des gâteaux bio par exemple. Pourquoi est-ce que finalement certaines étiquettes, comme le bio hein, ou qualificatif, ne sont pas forcément nos amis ?
Alors j'ai fait en sorte de prendre cet exemple du biscuit dans mon livre, puisque le bio est une niche qui intéresse énormément les industriels aussi, comme l'équitable, le halal, le kasher, le light.
C'est vrai, c'est exactement ça.
Tout ce qui peut rapporter de l'argent en fait à l'industrie. Donc en fait, ils se sont jetés dessus et on se retrouve avec des produits qui, attention, peuvent être extrêmement chers quand ils sont industriels. Ça, il ne faut pas l'oublier. Très souvent, les artisans ou les petites boutiques qui proposent des produits locaux sont beaucoup moins chers en bio. Et deuxièmement, qui dit bio ne dit pas mécanisation à outrance, voire parfois, tout en respectant le cahier des charges du bio, une petite dérive sur les ingrédients. Or, je suis désolé, que ce soit bio ou pas bio, moi, si je vois marqué farine, sucre non raffiné, ça me convient. Si je commence à voir marqué des E400, des glycérides, c'est que c'est un produit qui est transformé, même s'il est bio.
Moi, la seule chose que je dis sur le bio, ce qui est très important à savoir, et en parlant du bio français, parce que pour bien connaître le AB en France, je dis qu'il est quand même préférable à aujourd'hui de manger... Alors, le produit transformé, il en est hors de question. Déjà, ça ne rentre pas dans ma liste. Moi, je parle de produits donc frais, comme les légumes et les fruits. Les fruits et légumes bio en provenance de France sont quand même aujourd'hui moins dangereux, même s'il y a encore du pesticide, bien sûr, même si on en a encore et qu'on en aura dans tous les légumes, sont quand même 2 à 3 fois moins dangereux, plus vitaminiques et plus nutritifs que les produits estampillés agroalimentaires que on va avoir premier prix. C'est juste ça dans le bio. Après, effectivement, moi je vous rejoins Stéphane, et ça fait plaisir d'entendre ça, c'est que c'est une niche, exactement comme le halal, exactement comme le veut dire comme le kasher. Les industriels n'en ont rien à cirer, c'est juste de s'en mettre plein les poches, et il suffit qu'il y ait 4, maintenant c'est entre 4 et 5 ingrédients qui soient bio, pour avoir l'estampillation AB sur des produits finis.
Tout voilà. À fait. Donc, moi je dis que le bio ne guérit pas, mais il ne rend pas malade non plus.
Voilà, c'est
donc
ça.
C'est
déjà pas mal de nos jours.
C'est un moindre mal.
C'est déjà pas mal de nos jours.
Alors, puisque c'est une enquête, hein, votre livre « Je ne mange pas de produits industriels », vous vous êtes intéressé à une marque de surgelés qui ne fait que des surgelés, qui est une des marques préférées des Français, hein, et aux plats cuisinés, et aux plats cuisinés, parce que le chef voilà me demande quelle marque, mais ça commence par un pi. Ça commence par un pi.
Ça m'a valu des questionnements, en fait, le fait que je parle de cette marque dans mon livre. Je vais vous expliquer pourquoi. Bien entendu, je suis pour les produits frais, je suis pour les produits locaux et pour les produits de mes petits maraîchers que je soutiens, soit en raisonné, soit en biodynamique. Bien entendu, quand vous écrivez un livre, vous écrivez à l'échelle nationale et vous ne devez pas privilégier une région. Il y a des gens qui n'ont pas accès à des produits frais ou des produits qui ont des prix cohérents par rapport à la valeur du produit. Donc il faut trouver une alternative et je sais très bien en tant que formateur qu'on ne peut pas changer un individu, ne serait-ce que par le frein au changement, immédiatement. Donc il y a des solutions alternatives pour que dans une logique d'aller faire ses courses, on puisse aller chercher des produits relativement sains. Donc cette enseigne, que je cite, a trois gammes. Elle a les produits, les plats préparés, que je refuse catégoriquement.
Ça, c'est le midi. C'est le midi. Ben, vous non, voyez, mais... le midi, tout le monde va oui, au micro-ondes, s'achète son plat préparé.
Je le refuse. Tout à fait. Je le refuse catégoriquement.
Pourquoi? Mais pourquoi? Il faut expliquer aux gens
parce
pourquoi.
Parce qu'il y a des conservateurs, il y a des arômes dedans. Il y a qu'à retourner l'emballage, ils comprendront.
Quand vous prenez les produits asiatiques dans lesquels on a ajouté du gluten pour avoir une tenue, alors que dans les produits asiatiques, très souvent, il n'y en a pas parce que c'est à base de riz. Quand on a rajouté à l'époque de l'huile de palme, quand on rajoute non plus du sucre mais du glucose de fructose, pour moi, c'est plus un produit que j'ai envie de manger. Donc, le problème des plats cuisinés, c'est qu'ils sont faits pour être rentables. Hein, on va pas c'est pas le produit qu'on cuisine à la maison. Donc, si à la maison, vous avez l'habitude de rajouter la bonne petite noix de beurre, la petite.
Mais passons, Stéphane, vous avez oublié aussi les conservateurs, les arômes saveurs, tout ce qu'il y a dedans. Parce que dans les plats surgelés, c'est ça. C'est un comprimé, et je le dis, hein, pour les avoir étudiés, c'est un comprimé de saloperie en étant poli. Voilà ce que l'on mange.
Et que une aberration dans le surgelé. Pourquoi mettre un conservateur dans le surgelé? J'ai jamais compris pourquoi. Ensuite, nous avons le plat préparé. C'est-à-dire qu'en fait, il a été un exemple, les légumes qui sont juste nettoyés et grillés ou équeutés. Voilà.
Ça, c'est exemple, c'est aubergine.
Voilà, aubergine, une crêpe. Poivron. Sarrasin, c'est de la farine avec de l'eau. Voilà, c'est ça. Et la première gamme, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est le produit brut. C'est-à-dire, sur le sachet, très souvent en bio d'ailleurs, vous trouvez chez cette marque, c'est le légume qui a été cultivé. Alors, pourquoi j'ai pris cette marque? Parce que j'ai mené mon enquête et je sais qu'ils essaient de trouver un maximum de produits en France. Malheureusement, parfois, les demandes ne répondent pas. Je pense en ce moment à la châtaigne. Ils essaient d'aller chercher en Ardèche un maximum de châtaigne. Ils sont obligés d'aller la chercher au Portugal parce qu'en Ardèche, nous ne produisons pas assez de châtaigne pour les fournir. Bon. Mais elles sont prises. Nettoyer ou couper, mise en sachet et mise à disposition. Je préfère à mes apprenants à l'époque quand j'étais formateur leur dire allez choisir plutôt une gamme de produits bruts, voire bio, surgelés, qui ont gardé leurs vitamines pour faire de la cuisine à façon, plutôt que d'aller chercher du plat cuisiné et jamais de fruits frais ou de légumes frais.
C'est mon combat, Stéphane, depuis 2 ans. Ça.
Mais la question pour ceux qui nous écoutent, est-ce que ces plats cuisinés dont vous nous parlez, qui sont pratique hein, dans un micro-ondes de midi, est-ce que ces plats sont dangereux pour la santé ou pas?
Alors,
est-ce qu'aujourd'hui, parce que c'est la question, attendez, c'est la question que vous posez dans votre livre, est-ce qu'on peut aujourd'hui dire qu'ils sont dangereux?
Oui, le gros problème en fait de ces plats cuisinés, c'est qu'ils ont des agents, des conservateurs qui font appel à ce qu'on appelle une DJA, la dose journalière. Personne s'est posé la question sont posées 2 questions. La première, c'est le cumul de ces substances. Et le deuxième, c'est la quantité cumulée à la journée de ces substances.
Donc,
alors, pour les avoir étudiés, pour la plupart, au niveau des conservateurs, j'en connais 165. Au niveau des colorants, j'en connais une centaine. Et au niveau des additifs, j'en connais une quarantaine. Pour les avoir étudiés, ils ont tous un point commun, c'est que ce sont tous des cancérogènes. Comme ça, c'est clair. Ce sont tous des produits qui asphyxient les cellules.
Mais à partir de quelle dose?
Alors là, c'est une grande question. Mais à partir de quelle dose? Maintenant, faut pas te poser la question quand quelque chose il est mauvais. Si tu sais que quelque chose il est mauvais, faut pas en prendre du tout. Pourquoi chercher le mal? Tu sais que c'est pas bon pour ton corps. Ton corps, c'est une machine. Il a besoin de tous les ingrédients qu'il y a frais. Quand on lui donne des carottes, par exemple, une simple carotte vitaminique, si la carotte est pleine de pesticides, elle a été maltraitée ou qu'elle est en conserve, elle n'a plus ses apports. Elle
ne sert plus à rien. Pourquoi, si c'est mauvais pour la santé, comme vous le dites, c'est cancérogène, c'est pas interdit?
C'est le business. La cigarette, ça tue. Et pourtant, on la vend.
Vous m'avez soufflé ma réponse, c'est exactement ça. Ça ne vous a pas échappé que mon préfacier était Laurent Chevalier, docteur au CHU de Montpellier.
Exactement.
Spécialiste en nutrition. C'est le débat que l'on a là-dessus. Le problème de ces produits, c'est qu'ils sont autorisés parce que la réponse, maladie, par rapport à ces produits, va peut-être se produire dans 20 ans, dans 30 ans.
Voilà, on n'a pas de...
Exactement. Un sac de carottes que vous avez mangé il y a 30 ans, mais qui? C'est impossible.
Tout ce qu'on sait aujourd'hui, et ça, c'est des études qui le prouvent. Bon, les maladies, elles ont augmenté, elles ont quintuplé en 20 ans. On est 5 fois plus malade qu'il y a 20 ans. Donc, c'est juste 20 ans, c'est pas grand chose. Tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup plus de maladies, de cancers qui sont nés, de maladies auto-immunes qu'on connaît même pas aujourd'hui qui sont nés, effectivement, à cause de la mauvaise alimentation. Et ça, c'est logique. Quand on en...
Et l'âge, bien sûr. L'âge, c'est-à-dire qu'on a des maladies qui étaient réservées, on va dire, aux 60-80 ans, qui descendent jusqu'à 25-28 ans.
C'est impressionnant.
Mais pour répondre aussi à la question de Philippe, le problème, en fait, de cette dose, c'est que l'être humain n'est pas si fragile que ça. Mais quand vous êtes attaqué de tous les côtés en permanence, un hectare n'est pas un poison, mais c'est le quotidien qui finit par devenir un poison.
Exactement. On a une machine magnifique. Quand on sait s'en servir, quand je vois moi, parce que j'essaye de faire de la cuisine naturopathique, et quand je vois le nombre aujourd'hui, je le sais puisque je conseille des gens et moi-même je m'en sers pour ma famille. Quand je vois le nombre d'aliments qui peut nous soigner, qui peut aider notre corps, ne serait-ce que du citron par exemple, du citron et du gingembre, du curcuma, ce genre de d'ingrédients là, et qu'on n'en parle jamais, Stéphane.
Tout à fait.
Vous voyez, c'est simple.
Par hasard, tout ce que vous me citez, c'est ce que la nature produit, où il n'y a pas de brevet dessus, et qui n'intéresse pas les industriels.
Allez dire aujourd'hui qu'il est prouvé scientifiquement, maintenant c'est la quatrième université qui le fait, que du citron et du bicarbonate de soude sont peut-être fonctionnent mieux que toutes les chimiothérapies. 100 fois mieux que toutes les chimiothérapies. Comment vous allez dire ça au monde entier? L'industrie ne va pas vous laisser faire. On ne va pas vous laisser faire. Donc ce sera les lobbies sont trop puissants, on peut rien faire.
Ça, ce qui est intéressant, c'est ce que vous dites dans votre livre, hein, Stéphane Guilbeault, c'est que finalement, quand il y a une étude qui dénonce les méfaits d'un produit, l'industrie alimentaire derrière va s'organiser pour produire un certain nombre d'études pour contredire les réponses et les résultats de l'étude.
Oui, on peut même voir apparaître des médecins qui vont donner des conseils dans des émissions de télé. Pas tout à fait objectif, quoi. Ça arrive très très souvent. Le problème du lobby, c'est que je sais pas si lui n'est pas convaincu aussi de faire du bien.
C'est possible. c'est possible après tout. Hein. Ce qu'il dit, c'est vrai. C'est peut-être qu'ils sont peut-être convaincus de faire du bien.
Moi, pour l'avoir vécu, moi, en tant que marketeur, quand vous êtes en train de défendre un produit, vous finissez par y croire. Quoi. Vous le répétez tellement tous les jours que c'est votre propre truisme. Donc,
c'est vrai.
Bon, c'est vrai. Après, moi, je connais des industriels qui ne mangent pas les produits qu'ils fabriquent. Hein, leurs enfants, ils leur donnent autre chose.
Eh ben, ça m'est arrivé, figurez-vous, dans une marque. D'ailleurs, je vais le dire, il y a très longtemps, c'était une marque de charcuterie halal, et c'était cette charcuterie Isla Delice. Et son fils, il est rentré. Et c'est là que j'ai commencé. Et moi, je le dis, je dénonce, et j'ai pas peur. Son fils, c'est vieux, hein, ce que je parle, ça fait assez vieux. Son fils, il est rentré dans le laboratoire. Il a pris une tranche de charcuterie. Le père lui a mis une grosse gifle. Il a dû ne pas toucher. Il a pris une claque, hein, carrément. Donc, à partir de là, et je vais vous dire même une chose, ça a été un déclic, Stéphane, et j'ai commencé à m'intéresser à la charcuterie. Et quand j'ai, alors, la charcuterie, je parle de la charcuterie estampillée halal. Hein. Et quand j'ai commencé à voir ce qu'ils utilisaient, le 120, les arômes, la VSM et toutes ces saloperies là, je me suis dit c'est vraiment 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 là, ça devient grave. Et c'est comme ça que, si vous voulez, ça a commencé le fait de découvrir la très mauvaise alimentation. Et plus on se renseigne, plus on travaille sur le sujet, plus on est dégoûté, quoi. Plus c'est dur.
Pour être objectif, en fait, sur tous ces produits dits industriels, les plats cuisinés, enfin toute l'industrialisation de l'alimentation, c'est qu'elle pose problème. Les principaux problèmes, c'est d'abord la mondialisation et la traçabilité. Hein. On a vu avec le cheval ce que ça pouvait donner. Quand on sait que dans certains pays, 5 à 8 000 chevaux disparaissent par an, on ne sait pas où ils sont passés, on se demande où ils vont finir. Hein.
C'est fou.
Il
n'y
a pas de cimetière à cheval, à ma connaissance.
Ça n'existe pas encore.
Les matières premières, en fait, la qualité des matières premières, forcément, la santé et le coût que ça apporte à la sécu. Ce genre de... La spéculation, en fait, dans les produits producteurs. Il y a des pays qui sont en guerre à cause des spéculations des prix bas. La mort de nos propres paysans. Ça a quand même... il y a des suicides presque tous les jours de nos paysans, puisqu'en fait, ils n'arrivent plus à répondre, à vivre, en fait, de la réponse du consommateur. Heureusement, ça revient. Il y a un problème d'éducation, puisque en fait l'alimentation est tellement passée en second plan et en aliment plaisir qu'on mange même plus ensemble le soir. On voit des ados qui vont dans les fast-food de 12, 14 ans.
Et les parents qui leur donnent l'argent pour lui dire j'ai pas le temps, va t'acheter un grec ou va t'acheter un truc.
Ça, c'est ce qui me paraît le plus fou. La déstructuration de l'aliment. Vous parliez tout le temps des tout à l'heure des carottes. Je prends toujours cet exemple des carottes. La carotte est extrêmement riche en bêta-carotène. Depuis 1936, depuis que Casimir Funk a découvert les nutriments, on a cru qu'on allait pouvoir les décomposer, les comprendre. Qu'est-ce qu'on fait ? On dit, puisque la carotte est bonne pour la santé, on va l'isoler et donner du bêta-carotène. Le problème, c'est que quand on donne du bêta-carotène seul, on n'a pas les effets de la carotte, voire même on a l'effet inverse. Et quand on donne la carotte, ça fonctionne mieux. Donc, il y a vraiment un problème sur la déstructuration des aliments. Et puis alors, le plus grave, à mon sens, c'est le goût. Puisque tout ce qui est industriel, souvent, contient des arômes.
Mais le problème, justement Stéphane, le problème c'est que le goût, aujourd'hui, on est habitué aux arômes et plus au vrai goût.
Bien, allez, dans un instant, on parlera, Stéphane Guilbeault, de votre ami candidat à Bilkan, si on va faire connaissance avec ce champignon qui fait des ravages.
Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM. Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM.
Bien, on a la stéréo ce matin, on a le chef Voilà qui est avec nous et puis Stéphane Guilbeault qui publie « Je ne mange pas de produits industriels » aux éditions Erol. Et c'est vrai que dans l'éducation et dans le rôle qu'on a, nous aussi dans cette émission, c'est de vous dire de faire attention.
Ça s'appelle finalement. À votre santé, il me semble, non c'est ça ?
Ouais, ça s'appelle à voilà. Votre santé. Alors Stéphane, je parlais de votre ami candidat à Bilkan. Alors je sais pas si on prononce le S à Bilkan ou à Bilkan. C'est un champignon.
Bilkan,
oui. Alors.
Oui, c'est un champignon.
Ouais.
Très très mal connu en fait. Moi, quand j'ai mené mon enquête, je me suis rendu compte que la plupart des généralistes sous-estimaient en fait ce champignon et que paradoxalement, les professeurs, ceux qui étaient spécialisés, qui étaient plus en contact avec des maladies graves ou chroniques, le prenaient un peu plus au sérieux. C'est pas une généralité, puisque j'ai rencontré énormément aussi de généralistes qui commencent à l'intégrer de façon très sérieuse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a toujours considéré que le candidat à l'épicant, parce que c'est un champignon, est nécessaire à notre système. Et ce n'est pas faux. Le problème, c'est quand il y a un dérèglement de ces systèmes-là, quand on le laisse faire, il se transforme en levure et il commence à prendre possession de notre corps. Donc ce n'est pas une maladie. On doit avoir des candidats albicans, c'est quand il prend le dessus sur notre système. Alors, il prend quoi ? Il prend le dessus sur notre système digestif et énergétique, immunitaire et mental. Donc ça fait quand même beaucoup de choses.
Et il est dû à quoi alors, ces champignons ?
Alors, essentiellement le stress, tout ce qui est raffiné, les alimentations raffinées comme le sucre, la farine, qui sont en fait dénaturées, les surconsommations, ce qu'on appelle les calories vides, les gras saturés.
Tout ce qui peut se stocker en fait tout simplement dans l'intestin et dans le côlon. Il faut savoir que au niveau des bactéries dans l'intestin, on a l'équivalent d'un terrain de tennis. Donc c'est très simple à comprendre ce que dit Stéphane, c'est juste que tout ce qui est mauvais en réalité déjà au départ pour le corps va aider à développer ce champignon. Tout simplement avec le facteur stress et fatigue qui arrive derrière, qui est en numéro 1 effectivement, on arrive à des et c'est et effectivement Stéphane ce que vous disiez c'est vrai, c'est une maladie qu'aujourd'hui qui est peu connue et qui est de plus en plus fréquente et qu'on entend de plus en plus parler, mais effectivement, c'est encore quelque chose qui est jeune dans l'esprit des gens.
Oui. Weston A. Price, en fait, qui était un scientifique amateur des années 30, qui était aussi d'ailleurs dentiste, déjà recensait ce type de maladie. Hein.
Ah, tu vois.
Parce qu'il voyait en fait le changement d'alimentation Canada-New York à cette époque-là. Donc les symptômes en fait de cette infection, puisqu'on peut parler d'infection, c'est alors beaucoup de gens vont reconnaître les symptômes, ce n'est pas forcément ça, mais quand vous commencez à les cumuler, il faut se poser des questions. C'est les colites intestinales avec les gaz et les ballonnements, les fatigues progressives et inexpliquées, des sommeils compliqués, voire médiocres, vous n'arrivez pas à récupérer, des allergies constantes, respiratoires, alimentaires, des mycoses, des troubles du comportement alimentaire comme l'alcoolisme, la boulimie, les envies de sucre permanentes.
Ouais.
Des problèmes gynécologiques, des problèmes de peau, des problèmes respiratoires.
Des problèmes de poids aussi, pour certains.
Des problèmes de poids, tout à fait, d'oreilles, de thyroïdes, articulaires.
De tout, quoi. En fait, de tout.
Ben oui.
Tout le corps, ouais.
Pourquoi ? Et c'est là où il est difficile, en fait. Un des symptômes aussi, c'est souvent la langue blanche jusqu'au fond. Le petit, la petite mycose que les bébés ont à la naissance, à l'âge adulte, vous commencez à avoir une langue blanche jusqu'au fond. On dit le test, vous mordez quelque chose et si la trace reste, bon, ben, c'est que vous consommez peut-être un peu trop d'aliments raffinés.
Pourquoi une phrase « ce midi, je mange léger, j'ai apporté une petite galette soufflée, vous rend-elle triste ?»
Parce qu'en fait, le marketing...
J'entends ça tous les jours au bureau, hein, je peux vous dire tout de suite.
Ouais, j'imagine.
La fameuse petite galette soufflée, on l'imagine très bien d'ailleurs, tout le monde imagine ce que c'est.
Ben, parce que justement, tout ce qui est beau peut être bon. La logique en fait du marketing sur la notion de plaisir a aussi travaillé l'image de l'alimentation. Les couleurs, les formes, les volumes, et on arrive à jouer sémantiquement sur les termes. Manger léger, on parle de l'aliment. L'aliment est léger, vous le mettez sur la balance, il est léger. Mais le problème, en fait, c'est que vous faites par exemple allusion au riz soufflé. Le riz, qui est un aliment avec un indice glycémique quand même relativement élevé.
Élevé dès le départ. 50, dès le départ, ouais.
Disons qu'il est, il est déjà dans la moyenne. Je parle des riz blancs surtout, hein. Il est là, extrudé en fait, il est éclaté en étant chauffé et son indice glycémique explose. Donc on a des riz soufflés, des galettes qui sont avec un indice glycémique de l'ordre de 85 voire 90. Ces petites galettes sont en effet extrêmement légères. Mais votre insuline, votre pancréas,
le pauvre, le pauvre, et le foie qui va essayer de garder un peu de glucose. Bref, bref. Juste pour
exactement,
moi, je donne toujours cet exemple.
En Grèce, en fait.
Et je donne toujours cet exemple, Stéphane, pour faire bien comprendre aux gens. En poids de légèreté, il suffit de prendre une chips. Une chips, alors à barbecue, ce que vous voulez, et puis d'y mettre le feu, de la brûler, de voir juste le temps qu'elle tient comme ça, juste par parce qu'il lui, ce qu'on lui a rajouté en fait, hein, juste par l'huile de palme, tout ça, le temps qu'elle tient dans la main. Elle tient à peu près 1 minute 30. Ça veut dire que la chips peut brûler alors que tu prends une pomme de terre, vous prenez une pomme de terre que vous allez couper finement et mettre à la friteuse, vous n'aurez jamais elle ne prendra pas feu. Hein. Mais c'est pour faire comprendre au consommateur ce qu'il consomme. À partir du moment où vous la prenez dans la main, cette chips qui est toute légère, qui fait des milligrammes, vous allez voir quelle dangerosité elle peut avoir. C'est impressionnant.
D'ailleurs, ça rejoint ce qu'on se disait sur l'alimentation. On a de plus en plus de mal à digérer les transformations, les produits transformés. Hein.
Et c'est vrai. Et c'est vrai. Il y a une étude qui vient de montrer encore une fois, parce qu'on a de plus en plus de maladies, notamment chez les jeunes, qu'en mangeant en fait une consommation d'un burger par exemple, d'un burger au niveau du système immunitaire, que le corps est habitué à manger ce genre de poison une fois par mois maximum. Or, aujourd'hui, on force pour certaines personnes à manger tous les jours. Il y a des gens qui mangent tous les jours. Donc, et à partir de ce moment-là, comme le système immunitaire est finalement est obligé de se défendre, il va faire ce qu'il peut, mais il a rien pour se défendre. Il va se défendre au maximum. C'est là où on peut attraper le plus qu'aussi de risques de maladies, par exemple virales, hein, comme la grippe, parce qu'on est dans un état très fébrile et notre système immunitaire ne fonctionne plus. Mais aujourd'hui, ce qui me fait le plus dur, Stéphane, et je suis content maintenant depuis être tout seul, depuis le début quand j'ai commencé, je me sentais un peu seul. Ce qui va être le plus dur, c'est de faire changer aux consommateurs ces lobbies qui sont très forts. Et il va falloir vraiment qu'on soit plusieurs. Et qu'on essaye de parce que ce que vous avez fait comme livre, c'est magnifique, hein, c'est tout juste splendide. Et faut en faire plus. Plus on le fera, et j'espère que plus les gens comprendront qu'il va de leur santé et de leur et de leur famille, quoi.
Alors moi, il y a beaucoup de Stéphane, il y a beaucoup de mères de famille qui nous écoutent. Par exemple, qu'est-ce que vous reprochez vous aux céréales du matin?
Le sucre déjà.
Essentiellement le sucre. Et puis en fait, ce n'est pas une céréale.
Ouais.
C'est une sorte de farine de céréales qui a été soufflée, dans lequel on a mis des arômes et du sucre. C'est une bombe glycémique.
Ils se rendent pas compte.
Premièrement, ils se rendent pas compte. Puis deuxièmement, ce n'est pas un aliment. Ce n'est pas un aliment. On est dans la futilité absolue. Alors qui aime paquet à la maison pour se faire plaisir de temps en temps? Pourquoi pas? Puisque rappelons qu'on est dans l'aliment plaisir aussi. Mais quand vous en faites un quotidien et que vous donnez ça comme petit déjeuner à vos enfants, ils partent avec une bombe glycémique et glucidique. C'est un truc de fou. Et c'est vraiment un truc de fou.
Un bol de céréales Chocapic. Un bol, on va prendre notre céréales Chocapic parce qu'on a fait l'étude dessus. Un bol de céréales Chocapic, mesdames et messieurs, un bol rempli de céréales Chocapic est l'équivalent de 2,5 canettes de Coca. Sachez-le.
Et puis,
voilà. Si vous savez ce que c'est Coca, vous comprendrez tout. Le matin, vous donnez à votre enfant déjà 120% des apports de sucre qu'il aurait besoin dans la journée, juste avec un gros bol de céréales. Alors oui, plus le lait que tu rajoutes dedans, qui est très sucré, puisque le lait c'est super sucré. Voilà, déjà le gamin, il a déjà son apport en sucre pour toute la journée, avant même d'avoir commencé la journée.
Je vais enfoncer le clou. Moi, j'ai eu des apprenants qui rajoutaient même du sucre dedans.
Ah bah voilà, bah tu vois, bah comme ça, c'est...
Bah moi, c'est comme ça qu'on m'a appris à les manger. Stéphane Guilbeault, quels sont les conseils que vous pouvez donner à ceux qui nous écoutent en début d'année déjà pour supprimer les produits industriels?
Alors déjà, les supprimer, ça se fait par étapes, on va dire. D'autant plus que les industriels ne sont pas à blâmer. C'est surtout le consommateur qui fait son propre frein. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Premièrement, le lieu de vente. Quand vous allez à un endroit où il y a 150 000 références de produits, en gros, vous vous doutez bien qu'on est dans l'industrialisation. Cherchez un lieu de vente qui n'est pas un temple de la consommation. Ça paraît fou, ça paraît être du bon sens, mais beaucoup de gens l'ont perdu. Si on va à un endroit où on est tenté par les produits industriels, on va forcément en acheter. Et l'être humain, quand il les achète et qu'il les ramène à la maison, il les mange.
Mais si on essaye de faire le contraire, c'est ce qui a été mon cas, je suis allé dans un centre commercial, dans un magasin justement pour faire le test, pour essayer d'acheter quelque chose de correct hein, pour une semaine, j'ai mis 2h30 dans le magasin et encore je suis parti, il manquait plein de choses. C'est-à-dire que si vraiment on se penche sur les produits qu'il y a en grande surface, j'ai envie de dire que 90% d'entre eux sont pas bons quoi. C'est horrible.
Comme je dis, au lieu de chercher puis d'être tenté, autant aller chercher des gens qui souffrent, qui sont autour de chez nous, qui sont artisanaux, qui sont, tous les gens qui sont autour et qui n'attendent que ça quand on les retrouve. Donc ça, déjà le premier point, le lieu de vente, c'est un signe. Hein. Deuxième moment, c'est la liste d'ingrédients. Vous l'aurez compris, on disait, lisez des choses simples. S'il y a marqué des ingrédients que vous pourriez avoir chez vous, aucun souci. Si vous commencez à avoir un aliment déstructuré, vous voyez que le blé, il a été coupé en trois, il y a le sang d'un côté, le gluten de l'autre, des triglycérides, il y a vraiment un problème quoi. Si on est dans la logique d'un produit industriel. Troisièmement, pour les éviter, éviter les prix bas. Quand vous avez un aliment, malheureusement à l'école on ne fait pas d'économie domestique, mais quand vous avez un aliment quel qu'il soit qui coûte trop peu cher par rapport à ce que ça devrait coûter, il y a vraiment un problème.
Mais attendez, Stéphane Guilbeault, ça c'est une question que vous posez, mais comme de toute façon on n'a plus aucun repère au niveau des prix, vous pouvez m'expliquer comment on connaît le juste prix de quelque chose?
Quand vous achetez un petit peu de farine, un petit peu de lait par exemple, du sucre ou des œufs, et que vous faites un gâteau, calculez le coût de revient du gâteau.
Ouais.
Vous enlevez 20%, on enlève, admettons, 20% en se disant l'artisan, à force d'acheter en gros, aura des prix plus intéressants que vous. Mais vous rajoutez 20% parce que lui, il a des frais, il a de l'électricité. Donc, on est à peu près pareil. Si le gâteau que vous faites, il coûte 5 euros, une tarte aux pommes, par exemple, vous la payez, elle vous revient à 3, 4 euros, et que vous l'achetez 1,20 € dans un magasin, il y a un réel problème. Ce n'est pas possible.
Il faut se poser les bonnes questions, exactement. Il faut se poser les bonnes questions.
Et puis, si vous avez
mais ça arrange tout le monde aussi, quelque part, comme disait notre ami Stéphane. Non, c'était pas Stéphane qui est venu, tu sais, le livre sur la malbouffe aussi. C'est Stéphane qui s'appelait. Comme vous, il a aussi eu il a aussi sorti un livre. Et ça arrange tout le monde. Parce que quand le consommateur aussi, il va dans un magasin qui voit un kilo de miel à 6 euros, il se pose pas la question de se dire que c'est pas du miel, que c'est du glucose. Je veux dire, à un moment aussi, faut mettre les réalités en face des trous. Il faut que nous, on arrête aussi de se dire que voilà, parce que le premier, c'est nous le problème. Comme vous avez dit, c'est nous le problème, c'est le consommateur. L'industriel, l'offre fait la demande. Si on boycotte un produit aujourd'hui qu'on sait qu'il n'est pas bon, il arrêtera de le fabriquer, tout simplement.
Tout à fait. Mais alors là, vous touchez le cœur du problème, c'est que les gens cherchent des prix.
Ouais.
Parce qu'on leur a appris à chercher des prix. On leur a fait croire que l'alimentation n'en avait pas de coût. Par contre, acheter un téléphone, partir en voyage, ça a toujours le même coût.
C'est
vrai. De toute façon, c'est simple. Hein. L'alimentation, il y a encore une cinquantaine d'années, c'était les deux tiers du salaire, enfin du budget. Aujourd'hui, c'est devenu un dixième. Ouais. Donc c'est bien qu'on est allé chercher des produits de moins en moins chers.
C'est vrai.
Et ça, c'est une éducation qui a été inspirée par la logique, un, du plaisir, et deux, du prix bas.
Bon, refusez de payer pas assez cher, en fait, finalement.
J'espère qu'un jour, on vous verra sur le plateau, Stéphane.
Mais très volontiers.
Bien. Alors, votre livre s'appelle « Je ne mange pas de produits industriels ». On est pris par le temps, Stéphane.
En plus, parce que ça, le problème, c'est le temps.
Je comprends.
C'est le temps, mais faire les courses, ça prend du temps, et peut-être que les gens aussi ont perdu l'habitude de faire des listes, tout simplement.
Oui, tout à fait, mais ça prend beaucoup moins de temps d'aller chez son artisan, chez son primeur, chez son boucher.
Puis aussi manger, il faut leur conseiller de manger les produits de saison aussi, les produits qui sont là devant nous, pas aller chercher des fois la complexité. Chaque saison, on a des fruits, on a des légumes, faut en profiter à ce moment-là.
Je fais mes courses,
ce que la nature nous offre, quoi.
Voilà. Tout à fait. Moi, je fais mes courses comme tout le monde et je fais jamais la queue aux caisses parce que les endroits où je vais, il n'y a pas de caisse, en fait. Donc, c'est un autre problème. C'est une autre façon de voir les choses.
Bien. C'est la bonne façon.
C'est une question qu'on peut se poser en début d'année. En tout cas, Stéphane Guilbeault, merci d'avoir été avec nous par téléphone.
Merci.
Je ne mange pas de produits industriels. Moi, j'ai trouvé votre livre très pratique et très bien fait. Il pose des bonnes questions et donne des bonnes réponses aux éditions Erol. Merci d'avoir été avec nous. Merci, chef.
Merci,
voilà.
Stéphane, et à très bientôt, j'espère.
C'est chef, voilà. On vous retrouvera dimanche, on fera de la galette des rois, et demain, vous avez rendez-vous avec Ali
la
Habibi.
Galette des rois au fenouil.
Ah ouais, alors ça fait rêver. Tiens, la galette des rois au fenouil. Berk, 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 berk. Mais non, et pourtant, c'est délicieux. Donc, rendez-vous avec chef, voilà, dimanche, entre 11h et midi. Merci de nous avoir suivi. Passez une très belle journée sur Beurre FM.
Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM.